Pour votre accueil, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous et bien sûr, les salutations de Genève vous sont transmises par ma bouche et croyez qu'elles sont réelles et sincères. Nous aurons notre Assemblée Générale cet après-midi à Genève, donc vous aussi, ah ben voilà, vous savez ce que nous faisons tous donc cet après-midi. Hein. Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais rendre grâce. Merci notre Dieu, notre Père, parce que c'est pour nous une joie et un privilège que tu nous donnes en toute liberté de pouvoir ce matin encore ouvrir ta parole. Merci parce que dans tous ces moments que nous venons de chanter, de louer, nous voulons te dire par ce biais-là aussi combien nous t'aimons, toi qui nous as tant aimés. Et nous voudrions être maintenant aussi attentifs peut-être à ce que tu as à nous dire au travers de ces textes bibliques que nous voulons méditer. Veuille Seigneur, par ton esprit, parler au cœur de tout un chacun, dans le précieux nom de Christ. Amen. Alors, on peut le pousser ce machin ou... Ça marche? Juste, faut parler dedans, ouais. Ouais, tu en m'entends là, ça va? Très bien. Mais j'ai juste peur d'avaler. Vers 66 ou 67 après Jésus-Christ, alors qu'il est dans une froide prison de Rome, un homme célèbre écrit ses dernières paroles. Il est au seuil de la mort, il n'est pas mourant dans un hôpital suite à une maladie, non. Il n'est pas non plus entouré de sa famille pour le veiller. Tout au plus deux ou trois personnes peuvent le visiter. Cet homme, vous l'avez, je suppose, reconnu, c'est l'apôtre Paul, bien évidemment. Et effectivement, la dernière lettre de l'apôtre Paul va révéler son cœur et ses priorités. Une doctrine saine, une foi ferme, une persévérance confiante et un amour durable. Voilà tout ce que l'apôtre Paul va vouloir transmettre à son fils spirituel Timothée, qui a probablement lu et relu chaque mot de ce passage qui étaient les derniers écrits de son bien-aimé conseiller. La gravité des circonstances et la qualité de sa relation avec Timothée font de cette dernière lettre de l'apôtre peut-être bien la plus intime et la plus touchante de toutes. Ne sommes-nous pas pour nous-mêmes d'ailleurs attentifs peut-être lorsque nous avons l'occasion d'entendre les dernières paroles d'un de nos bien-aimés qui s'en va. Et lorsque Timothée reçoit cette lettre, il se trouve en difficulté. Ou il ne l'est pas du fait d'une faiblesse quelconque, ou de sa jeunesse, comme lorsque dès qu'on pense à Timothée, on pense qu'il est jeune, comme s'il était resté tout le temps jeune. Non. Ces difficultés était dû au fait qu'il y avait dans l'église d'Éphèse, dont il était responsable, passablement de problèmes qui pouvaient le décourager, au point même de lui faire arrêter son ministère. Et il reçoit alors les dernières instructions et les derniers encouragements de la part de l'apôtre Paul. Et la première exhortation sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, c'est celle que va donner Paul à Timothée. Ne pas oublier de se souvenir. Et je vous propose de lire dans la deuxième lettre de Paul à Timothée les sept premiers versets du chapitre 1er. 2 Timothée 1, 1 à 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure et je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice. J'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Oui, Timothée est exhorté à se souvenir. En effet, suivant les versions, nous retrouvons les expressions « je te rappelle », « souviens-toi », « je me souviens » ou « je garde le souvenir de », etc. Paul également se souvient. Et Timothée se voit ainsi exhorté à se souvenir. Oui, mais à se souvenir de quoi ? De quoi nous souvenons-nous le plus ? Du bien ou du mal que nous avons subi ? Ici, rien de tout cela. C'est comme si Paul lui disait « Quand suivre Jésus te semble difficile, souviens-toi de la promesse et de la puissance de Dieu. » Mais qu'entend-il par là ? Pour Timothée, c'était très difficile de servir Dieu. Et pour nous, pour quelles raisons trouvons-nous difficile de servir Dieu le plus fidèlement possible ? Ne sommes-nous pas d'accord avec lui sur certains points de sa parole ? Avons-nous peut-être peur d'être dérangés dans notre petit confort de chrétien embourgeoisé ? En ce qui concerne Timothée, il devait lutter contre les déviations, l'émergence de la vague sectaire et les faux enseignements. De quoi être parfois découragé, voire même dépassé. Alors peut-être avons-nous tendance à considérer que ces lettres que l'apôtre a écrites à Timothée ou à Tite, lettres que nous appelons volontiers pastorales, n'est-ce pas, ne seraient que pour les pasteurs. Non. Si elles sont parvenues jusqu'à nous, c'est parce qu'elles nous concernent tout autant comme étant parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre commence par « souviens-toi ». Souviens-toi de la promesse de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'entrée de jeu, Paul rappelle la promesse de Dieu à Timothée. Cette promesse nous concerne aussi et elle est également pour nous. En effet, cette promesse, c'est celle de la vie éternelle qui se réalise en nous par la volonté de Dieu. Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir. Le plan de Dieu pour Paul et Timothée était qu'ils annoncent le message de la vie éternelle. Et cette promesse, c'est celle que nous lisons dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et Jean, toujours lui, verset 3 du chapitre 17, nous rappelle « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Timothée doit se souvenir de cette promesse fondamentale qui est celle de la vie éternelle. Merveilleuse promesse qu'il ne nous faut jamais oublier. Dès le début, nous le voyons bien au verset 2, l'apôtre parle de Timothée comme étant son enfant bien-aimé. Oh, on perçoit là, n'est-ce pas, un sentiment d'une profonde amitié, d'une relation particulière, quasi paternelle de Paul envers Timothée. Et peut-être bien que Paul, qui se sent au fin fond de sa prison, rien qu'à la pensée de Timothée, il se sent encouragé, rien qu'à la pensée de son fils spirituel. Et il demande alors à Dieu d'accorder à Timothée tout ce qu'un chrétien peut espérer avoir. Tout d'abord, la grâce de Dieu, nous dit le texte. Cette grâce qui est pour tous. Cette grâce qui nous parle d'un Dieu qui donne gratuitement. Au lieu de nous punir comme nous le méritons, il nous fait connaître alors son très grand amour. Puis l'apôtre souhaite pour Timothée toute la compassion de Dieu, c'est-à-dire son secours continuel, perpétuel, en toutes circonstances. Cette miséricorde, c'est l'aide que Dieu apporte à ceux qui ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Et enfin, à la fin de ce verset 2, c'est de la paix de Jésus-Christ en nous dont il est question. La paix qui nous fait savoir que Dieu est avec nous. Nous devenons chrétiens et nous avons la paix avec Dieu à cause du don gratuit de Dieu et de sa grande miséricorde. Cette paix en nous, par la présence du Seigneur Jésus, nul ne peut nous l'ôter. Nous ne pouvons pas la donner à d'autres, non. Nous pouvons tout au plus les exhorter à mettre leur foi en Jésus-Christ, qui seul peut procurer la paix. Nous ne pouvons pas accomplir notre service chrétien sans ignorer que Dieu est avec nous à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Or, l'apôtre confirme même cette pensée un peu plus loin dans ce premier chapitre, versets 12 à 14. « Car je sais bien en qui j'ai placé ma foi, et je suis persuadé que celui-là a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Frères et sœurs, j'espère que nous ne doutons pas un seul instant que l'Esprit Saint habite en nous. Nous savons comment Paul est devenu chrétien. Nous savons comment il a connu ce salut, parce que Dieu s'est saisi de lui. Dieu lui a manifesté sa bonté et a transformé sa vie. Oh, je sais bien que beaucoup d'entre nous, à notre manière et de façon fort différente, pourraient exprimer également comment Dieu a transformé nos vies. C'est-à-dire notre manière de vivre, de réfléchir, d'agir, de penser, de prioriser les choses peut-être. Mais comme à l'apôtre Paul, Dieu ne nous a pas promis que nous aurions une vie facile. Et lorsqu'Ananias, en acte 9, est amené à aller rencontrer l'apôtre, il avait pour mission, n'est-ce pas, de relever Paul. Mais il avait aussi notamment pour mission de lui révéler ce qu'il est dit au verset 16 de ce chapitre 9 des Actes, qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Paul s'en est toujours souvenu. Comme il n'a cessé de se souvenir des promesses de Dieu. Il est donc bien placé pour nous exhorter, nous aussi, tout en s'adressant à Timothée, à nous rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu, mais souviens-toi aussi du peuple de Dieu. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure et je fais continuellement mention de toi dans mes prières nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice. J'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Souviens-toi du peuple de Dieu. L'apôtre aussi se souvient à lui. Avec reconnaissance, nous dit-il ici, de ses propres ancêtres qui ont servi Dieu fidèlement, comme il l'a fait lui-même. Mais dans la gratitude qu'il a d'évoquer ses souvenirs personnels, l'apôtre est amené à inciter Timothée à se souvenir lui-même, lui aussi, de ses propres ancêtres très proches qu'il a connus. Sa mère, sa grand-mère, qui l'ont élevé dans la connaissance de Dieu et dont la foi fut manifeste à ses yeux. En dépit des difficultés de la vie, ces personnes-là ont persévéré dans la foi. Cette foi dont il est parlé ici et qui est mentionnée, elle est mentionnée comment, avez-vous remarqué? Elle est mentionnée comme étant une foi sans hypocrisie. Ce n'est pas une foi hypocrite. N'êtes-vous pas un peu surpris par cet adjectif que l'apôtre associe au terme de foi? Pourquoi n'a-t-il pas parlé d'une foi forte, faible peut-être, ou fragile, ou vivante? Non, rien de tout cela. Une foi sans hypocrisie. Est-ce si extraordinaire que cela? Une foi sans hypocrisie? Beaucoup de nos contemporains perçoivent parfois dans nos églises ce qu'ils appellent de l'hypocrisie entre ce que nous faisons ou disons le dimanche et ce que nous pratiquons le lundi matin. Il y a là peut-être une interpellation à laquelle nous ferions bien de penser. Et que dire encore lorsque cela concerne nos propres enfants, qui sont à la fois très observateurs et très sensibles à nos manières de vivre. Toutefois, je constate que depuis 2000 ans, la foi chrétienne n'a pas disparu. Il est bien possible que l'hypocrisie, elle non plus, n'ait pas disparu. Soyons donc vigilants et prions que le Seigneur nous aide à être constamment en adéquation avec notre foi en Jésus-Christ. Dans notre texte, l'apôtre mentionne les larmes de Timothée. Oh, ce n'étaient pas les larmes qu'il avait peut-être pu verser lors de leur dernière séparation. Non, ce sont les larmes de la difficulté qu'avait Timothée dans son ministère, où il devait souffrir, luttant probablement contre ceux qui ont justement manifesté cette foi hypocrite en détournant ainsi les autres vers un autre évangile. Avons-nous, frères et sœurs, jamais pleuré quand nous pensions bien faire pour le service de Dieu, à quelque niveau que ce soit? Il n'y a pas que les pasteurs qui versent parfois des larmes pour l'Église de Dieu. Or, si tel est le cas pour certains d'entre nous, Paul nous rappelle qu'il est bon de se souvenir de la grâce, de la compassion et de la paix que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Souvenons-nous de nos anciens, Qu'est-ce qui leur permet de poursuivre la route ici-bas, malgré les aléas de la vieillesse? C'est Dieu seul qui le leur permet. Et nous pouvons être reconnaissants car Dieu ne change pas. Dans sa grâce, il en a aidé d'autres et il nous aidera aussi, soyons-en persuadés. La grâce, la compassion et la paix de Dieu les accompagnent jusqu'au bout. De même, bien des personnages bibliques ont souffert parce que leur foi n'était pas hypocrite. Ne serait-ce que, pensons à Daniel, pourquoi a-t-il été mis dans la fosse? S'est-il caché pour adorer son Dieu? Non. Il n'a lui aussi pas eu honte et sa foi sans hypocrisie fut honorée. Oui, souviens-toi également du peuple de Dieu. Mais aussi, l'apôtre exhorte Timothée à se souvenir de quelque chose d'important également. C'est de se souvenir de la puissance même de Dieu. Verset 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. C'est le Saint-Esprit qui donne aux chrétiens la force nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. Ici, l'apôtre emploie une expression très compréhensible pour tous ceux qui faisaient la cuisine à l'époque. En effet, il fallait que le feu ne s'éteigne pas. Il fallait souffler dessus pour animer la flamme. Cette image du verset 6 doit pousser Timothée, comme nous tous, à demander à Dieu de nous aider à ranimer la flamme du Saint-Esprit que nous avons en nous. Or, cette exhortation concerne tout chrétien, quel que soit son service. Chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit qui nous apporte une vie nouvelle et toute la force nécessaire pour servir Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à aimer les autres, même quand ceux que nous servons nous blessent. Il nous aide à avoir la maîtrise de soi et à avoir la bonne réaction lorsque les gens ou les circonstances nous poussent à dire ou à faire du mal, peut-être. Quand nous avons du mal à poursuivre notre route, nous devons alors d'autant plus dépendre de l'Esprit Saint pour nous aider. Il nous donne alors la puissance dont nous avons besoin. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce qu'un lâche? Le lâche est un faible, un peureux peut-être, voire même un égoïste. En ce qui concerne la foi, ne surtout pas en parler, n'est-ce pas? Cela ne concerne que moi, quant aux autres, tant pis pour eux. Non, ce n'est pas comme cela que Jésus veut que nous soyons. Au contraire, l'esprit de force, d'amour et de pondération que le Seigneur nous donne est quelque chose qui, inévitablement, doit se voir. Certaines traductions parlent d'un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. Mais en fait, il s'agit bien plutôt, en définitive, d'avoir par la puissance de l'esprit une pensée saine en ce qui concerne tous les domaines de la vie. La Bible du Semeur nous exhorte en parlant justement de cet esprit par des mots qui regroupent tout ce que cela peut vouloir dire. Cet esprit doit nous rendre, comme Timothée, fort, aimant et réfléchi. Eh oui, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, mais le chrétien doit être réfléchis. Oui, le Saint-Esprit nous est accordé en tant que chrétiens pour nous permettre de persévérer dans la foi, dans l'amour et dans une pensée juste et bonne. Alors, quelles que soient nos difficultés pour suivre Jésus, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler non seulement les promesses de Dieu, mais également toute sa puissance qu'il veut mettre aussi à disposition de notre foi. À Dieu seul, rien n'est impossible. Pour conclure, je dirais juste que pour suivre Jésus, quand cela est difficile, nous devons nous souvenir que Dieu promet de donner la vie éternelle à ceux qui croient. Nous devons nous souvenir que d'autres ont souffert et que Dieu les a gardés. Nous devons nous souvenir que si nous le lui demandons, Dieu nous donnera la force et la puissance dont nous avons besoin par le Saint-Esprit. Dieu est parfaitement capable de nous garder dans les difficultés. Il est le Dieu de grâce, de miséricorde et de paix que Paul rappelle à Timothée. Si vous ne connaissez pas encore ce grand Dieu, mettez votre foi en lui dès aujourd'hui et ses promesses seront aussi pour vous. Souvenons-nous des promesses et de la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous propose quelques instants de réflexion. Le Seigneur n'est pas enfermé dans un temple ni dans un bâtiment. Il nous a choisis pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres. C'est à nous de témoigner de son amour. Que Jésus-Christ nous bénisse, que sa paix nous habite, que sa force nous porte et que son amour nous guide. Que nous puissions aller encore dans cette semaine dans la joie de notre Seigneur. Parce que Jésus nous confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Et je vous propose de vous lever et de chanter le 365 dans « À toi la gloire ».